de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos. Comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à tous, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie et bientôt je vais vous présenter les nouvelles d'aujourd'hui. Il y a quelques événements importants à informer, entre autres. Le gouvernement indonésien est optimiste sur le fait que l'objectif de réalisation du PEN est de 100% en décembre 2020. Inde, une personne sur 15 âgée de 10 ans et plus est atteinte d'un coronavirus. Cheikh Nawaf promet de sauvegarder la stabilité et la sécurité du Koweït. 40% des Sud-Coréens ont des problèmes de santé mentale dus à coronavirus. Le consul général chinois Aden Passar est prêt à travailler ensemble pour lutter contre la COVID-19. Les œuvres d'artistes indonésiens sont exposées dans le centre animé de Shanghai. Et la coopération entre l'Indonésie et l'ONUD dans les secteurs industriels 4.0 et de MPME. Mon cher auditeur, voici la nouvelle en complet. Le gouvernement indonésien est optimiste sur le fait que l'objectif de réalisation du PEN est de 100% en décembre 2020. Le gouvernement indonésien est optimiste que la réalisation du programme national de relance économique PEN sera atteinte à 100% à la fin de cette année, à la fin du mois de décembre 2020 ou à la fin du troisième trimestre 2020. La Task Force for Economic Recovery and Transformation s'est rendu compte que l'absorption du budget national de relance économique dépasse l'objectif de 100 billions de roupies. Le gouvernement de travail PEN continue également d'encourager l'accélération de l'absorption pour atteindre 100% en décembre 2020 pour maintenir le mouvement économique et la résilience dans la communauté et soutenir le mouvement du taux de croissance économique nationale pour s'améliorer. Le président du groupe de travail PEN, Budi Gunadisadikin, lors d'une conférence de presse virtuelle mercredi 30 septembre 2020 après-midi, a déclaré qu'à la fin du troisième trimestre, la réalisation cumulative du programme PEN, y compris la reprise économique et sanitaire, avait réalisé avec succès 304,6 billions de roupies ou 43,8% du budget total de 695,2 billions de roupies. Ce programme en particulier, depuis la création du groupe de travail du 20 juillet, ont pu distribuer environ 255,22 milliards de dollars pour nos quatre programmes principaux. Sur une base hebdomadaire, nous pouvons voir sur l'écran que le décaissement est de plus en plus rapide. Les quatre secteurs concernés sont le secteur de la protection sociale, les PME, les ministères ou bien institutions et les collectivités locales, ainsi que le financement des entreprises. Dans ces quatre secteurs, le groupe de travail PEN a distribué une augmentation hebdomadaire par grappe de PEN de 137,89 billions de roupies. Pendant ce temps, le secteur du financement des entreprises commencera à se concrétiser au début d'octobre 2020 ou au quatrième trimestre, pour qu'il puisse encourager la croissance économique au cours de ce trimestre. Nous croyons, si Dieu le veut, à la fin de l'année, nous sommes optimistes que nous pouvons absorber la totalité du budget afin qu'il puisse fournir un levier suffisamment élevé pour la croissance économique de l'Indonésie au troisième et quatrième trimestre. Budi Gunadi Sadikin espère que la croissance économique au troisième trimestre sera meilleure que les 5% négatifs au deuxième trimestre. L'Inde, une personne sur 15 âgée de 10 ans et plus est atteinte d'un coronavirus. Les responsables indiens ont révélé mercredi qu'une personne sur 15 âgée de 10 ans et plus aurait contracté le coronavirus en août. Le directeur général du Conseil pour la recherche médicale de l'Inde, ICMR, Balaram Bhargava, a déclaré le risque dans les bidonvilles urbains est deux fois plus grand que dans les zones non bidonvilles et quatre fois plus que dans les zones rurales. Bhargava a ajouté que même s'il restait encore de nombreuses personnes qui n'étaient pas exposées à COVID-19, auparavant le vice-président M. Venkaiah Naidu avait été signalé mardi positif pour le coronavirus. Un tweet du compte officiel du vice-président disait que Naidu ne présente pas de symptômes et en bonne santé, il est conseillé de se mettre en quarantaine à la maison. Pendant ce temps, sa femme, SMT Usha Naidu, a été testée négative pour la COVID-19. Et procède maintenant à un isolement indépendant. Jusqu'à présent, le pays de Bollywood a signalé plus de 6,2 millions de cas de COVID-19 et 97,497 décès, ce qui est en fait le deuxième pays au monde à connaître la pire épidémie après les États-Unis. Chef Nawaf promet de sauvegarder la stabilité et la sécurité du Koweït. Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah devient officiellement le nouvel émir du Koweït. Il a prêté serment constitutionnel devant l'Assemblée nationale du Koweït mercredi. Cheikh Nawaf, cité par le site internet Al-Arabia, a promis de travailler pour assurer la prospérité, la stabilité et la sécurité du Koweït. Il a également déclaré que les politiques de ses prédécesseurs resteraient les principes directeurs du pays. Cheikh Nawaf est le demi-frère de l'ancien émir koweïtien Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Sabah. Cheikh Sabah est décédé mercredi à l'âge de 91 ans. Le gouvernement koweïtien n'a pas publié de déclaration sur la cause de la mort de Cheikh Sabah. Cheikh Nawaf a été nommé prince héritier par Cheikh Sabah en 2006. Selon la constitution koweïtienne, chaque nouveau prince héritier doit être approuvé à la majorité à l'Assemblée nationale du pays. 40% des Sud-Coréens ont des problèmes de santé mentale dus à COVID-19. 40% des Sud-Coréens ont déclaré avoir des problèmes de santé mentale en raison des restrictions de la COVID-19, selon une enquête de mercredi. 4 résidents sur 10 de la capitale Séoul pensent que leur santé mentale s'est détériorée en raison de l'épidémie de coronavirus dans le pays, a rapporté l'agence de presse Yonhap. Sur les 3983 répondants à l'enquête menée par le gouvernement métropolitain de Séoul au cours de la période de juillet à août, 40%, soit l'équivalent de 1489 personnes, ont admis que leur santé mentale s'était détériorée depuis l'éclatement du coronavirus. Les 60% restants ont déclaré que leur santé mentale avait peu changé. Ces effets négatifs sont dus, entre autres, au ralentissement économique, à la réduction de la vie des loisirs due à l'éloignement social, à la réduction des activités à l'extérieur de la maison, aux inconvénients du port de masques et à la rupture des relations entre la famille et les amis. Environ 51% des répondants ont déclaré que la distanciation sociale était nécessaire et ne causait que peu d'inconvénients. 41% des répondants ont admis que même si des mesures de santé sont nécessaires, elles sont inquiétantes. Pendant ce temps, plus de 24% des répondants pensaient que les pertes économiques avaient affecté leur vie. Le consul général chinois Adam Passard est prêt à travailler ensemble pour lutter contre la COVID-19. Le consul général chinois Adam Passard Chu Xionglong a déclaré mercredi à Antara Adam Passard qu'il était prêt à relier la coopération du pays avec Bali, Nusa Tenggara Ouest et Nusa Tenggara Est dans un effort pour lutter contre la COVID-19 et encourager également la reprise économique grâce à la coopération dans le secteur du tourisme ainsi que d'autres domaines. Depuis que la pandémie de COVID-19 a éclaté, les peuples de Chine et d'Indonésie ont travaillé main dans la main pour s'entraider et l'amitié entre les deux pays s'est également resserrée. Le président Xi Jinping a passé 3 appels téléphoniques avec le président Joko Widodo concernant la coopération en matière de lutte contre la pandémie et de reprise économique. Dans une interview spéciale liée aux 71 ans de création de la RPC et aux 60 ans de relations diplomatiques entre la RPC et la République d'Indonésie, il a expliqué que le gouvernement, les entreprises et tous les niveaux de la société des deux pays sont également activement engagés dans la fourniture d'une assistance en matière médicale et le partage d'expériences en matière de prévention et de contrôle des pandémies. Il a souligné que la COVID-19 ne connaît pas de frontières nationales et que le monde est désormais une communauté humaine du même sort. La communauté internationale ne peut surmonter cette pandémie que par la solidarité et la coopération. Les œuvres d'artistes indonésiens sont exposées dans le centre animé de Sanggai. Deux œuvres de l'artiste indonésien Edi Prabandono sont exposées dans l'un des centres animés de la ville de Sanggai en Chine pour attirer l'attention des résidents locaux. Les œuvres intitulées Harmony et Living in the High Life sont dans la région de Ying'an du 25 septembre au 31 décembre 2020. C'est ce qu'a déclaré Wendy Adriano, le directeur de la fonction d'information socioculturelle du consulat général d'Indonésie à Shanghai, comme l'a rapporté mercredi Antara. L'œuvre d'installation sous la forme d'une sculpture de voiture a été amenée à Shanghai pour animer Ying'an International Sculpture Project JISP. L'événement était organisé par le gouvernement du district de Yin'an et le bureau d'urbanisme, de planification et des ressources naturelles de Shanghai. Wendy a déclaré que le placement des œuvres d'artistes indonésiens dans des coins stratégiques de la ville était une forme d'appréciation et d'attention de la part du gouvernement de la ville de Shanghai aux artistes indonésiens. Il espère que le gouvernement municipal de Shanghai pourra offrir une autre occasion aux artistes indonésiens de participer à diverses expositions artistiques et culturelles. La coopération entre l'Indonésie et ONUDI dans les secteurs industriels 4.0 et de PME. L'Indonésie encourage la coopération dans les secteurs de l'industrie 4.0 et des micro, petites et moyennes entreprises, PME, avec l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel, ONUDI. Cela a été transmis par l'ambassadeur d'Indonésie auprès des Nations Unies à Vienne, M. Darmansyah Jumala, lors de la 36e réunion du comité du programme et du budget de l'ONUDI à Vienne, en Autriche, qui s'est tenue du 29 au 30 septembre. Dans sa déclaration à la réunion du comité du programme et du budget de l'ONUDI, l'ambassadeur Darmansyah Jumala a souligné l'importance de la coopération dans ces deux domaines concernant le secteur de PME. Selon l'ambassadeur Jumala, auparavant l'Indonésie et l'ONUDI avaient coopéré dans le secteur de la pêche. Par le biais du projet Smart Fish Sustainable Market Access Through Responsible Trading of Fish, financé par le gouvernement suisse, l'ONUDI aide les PME de la pêche indonésienne à avoir les normes d'exportation internationales. Avec cette norme internationale, on espère que les exportations de produits de la pêche des entrepreneurs indonésiens des PME pourront augmenter. Bon, chers auditeurs, c'est tout les nouvelles d'aujourd'hui.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo choku yo shite COVID-19 no kansan kakudai wo防ぎましょう. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقو انتقال فيروس كوفيد-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح قناعي يحميكم وقناعكم يحميني
رانج جنشوي بيتاي كوجو يفانشي سينسين قوانجوان بيندو فييين دا چوانبو ودا كوجو باوهوني ودا كوجو باوهو
Evite la difusión del coronavirus cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
C'est un talk bonsoir, voici le commentaire ayant pour le titre « La journée du miracle de Pancasila ». Chaque 1er octobre, le peuple indonésien commémore toujours la journée du miracle de Pancasila. La commémoration du 1er octobre est toujours en héros, même s'il reste encore un certain nombre de questions et de polémiques sur l'origine de la raison pour laquelle cette date est également appelée « La journée du miracle de Pancasila ». En ce qui concerne la journée du miracle de Pancasila, le 1er octobre, La nation indonésienne ne peut pas être séparée de ce qui est arrivé la veille, à savoir 30 septembre. Parce que le 30 septembre 1965 est un événement historique et l'élan du peuple indonésien à regarder vers l'avenir. N'oubliez pas de regarder ce qui s'est passé dans les conflits internes qui ont débuté pendant la guerre d'indépendance en septembre 1948 et septembre 1965. Le 30 septembre pour le peuple indonésien ne peut pas être séparé du mot communiste. À ce propos, le membre du Parlement en tant qu'auteur de livres d'histoire sur le voyage de la nation indonésienne, Fadlizon, lors d'une discussion sur l'une des chaînes de télévision privée nationale, a déclaré qu'il y avait des tentatives du Parti communiste indonésien ou PKI pour effectuer un coup d'État en 1948 et en 1965. Au cours de cette période, des officiers de haut rang de TNI, des policiers, des chefs religieux et communautaires, ainsi que des membres d'organisations religieuses ont été victimes d'atrocités commises par des adeptes de l'idéologie communiste. Tous ces efforts n'étaient autres que de faire de l'Indonésie une idéologie communiste dans un État pour remplacer Pancasila. Pendant ce temps, le gouverneur de l'Institut de Défense Nationale, le lieutenant général TNI retraité Agus Wijoyo, a déclaré que l'État, PKI et les autres partis impliqués dans des actes de violence liés au mouvement du 30 septembre 1965 et par la suite devaient se pardonner. Il a également souligné que la réconciliation est le meilleur moyen de mettre fin et de résoudre la question de nation liée au mouvement du 30 septembre. En fait, les événements de 1948 et 1965 pour les adeptes de l'idéologie communiste étaient un mouvement pour changer Pancasila en tant que direction et fondement de l'État de nation indonésienne. Actuellement, la question de PKI n'est plus pertinente pour être soulevée dans le monde politique. Cependant, il faut se rendre compte que l'idéologie communiste doit être restée vigilante pour toutes les parties prenantes de la nation indonésienne pluraliste. Pour cette raison, le peuple indonésien, en particulier la génération milléniale, doit défendre et appliquer l'essence contenue dans Pancasila qui a uni et continuera d'unir la nation indonésienne. Tout aussi important, les représentants de l'État et les dirigeants communautaires doivent devenir des modèles dans la mise en œuvre de Pancasila dans la vie quotidienne. Bonne journée du miracle de Pancasila. J'espère que le peuple indonésien restera uni. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 1er octobre 1949, la République populaire de Chine a été fondée. La République populaire de Chine est située en Asie Est, qui a sa capitale à Beijing. Ce pays a la plus grande population du monde et une superficie de 9,69 millions km carrés, ce qui est en fait le quatrième plus grand pays dans le monde. Le pays a été fondé le 1er octobre 1949 après la fin de la guerre civile chinoise. Mao Zedong a proclamé la République populaire de Chine et à partir de ce moment-là, la Chine a été dirigée par un parti unique, le Parti communiste chinois. Le 1er octobre 1965, le Hari Kesaktian Pancasila ou le jour du caractère sacré du Pancasila. Le 30 septembre 1965, 6 généraux et un capitaine ont été enlevés et tués. L'un d'entre eux était le commandant en chef de l'armée Ahmad Yani. L'action l'appelait le mouvement du 30 septembre ou communément abrégé en G30S. Avec la mort de Ahmad Yani, le major général Suharto a pris le commandement de l'armée le matin du 1er octobre 1965 et a lancé une contre-attaque dans la soirée. Toutes les troupes de G30S ont finalement été capturées ou ont fui. Le mouvement du 30 septembre est perçu comme une tentative du Parti communiste indonésien de remplacer l'idéologie de l'État indonésien, à savoir Pancasila, par le communisme. Mais l'effort a échoué, C'est pourquoi le 1er octobre est célébré comme le jour de Kesaktian Pancasila. Le 1er octobre 2005, l'incident de bombardement de Bali. L'attentat de Bali en 2005 était une série d'attentats à la bombe survenus le 1er octobre 2005 à Bali. Trois attentats à la bombe ont lieu l'un à Kuta et deux à Jimbaran. Au moins 23 personnes ont été tuées et 196 autres blessées. Cet attentat suicide a eu un impact significatif sur le tourisme à Bali parce que le 2 octobre 2002, un attentat similaire a tué 202 personnes. Chers amis, c'était l'histoire aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Chers auditeurs, bonsoir pour la rubrique suivante. Voici donc Mon Indonésie et pour le titre, l'Indonésie est capable de diriger l'action climatique avec le système de vérification de la légalité du bois. L'ambassadeur de la conférence des parties COP26 pour la région Asie-Pacifique et Asie du Sud, Ken O'Flaherty, a déclaré que l'Indonésie pourrait mener l'action climatique pour protéger les forêts avec le système de vérification de la légalité du bois ou SVLK lors de la troisième APIC conférence internationale du réseau de l'Indonésie 2020 qui s'est déroulée virtuellement et est accessible depuis Jakarta mardi le 29 septembre. Il avoue que l'Indonésie avait réussi à surmonter le problème du bois illégal afin qu'il puisse être l'une des solutions pour protéger les forêts. Ken O'Flaherty a également déclaré que l'Indonésie pourrait mener l'action climatique en protégeant les forêts grâce à l'application du système de vérification. En tant que présidence de la COP26 avec l'Italie, le Royaume-Uni encourage la promotion du commerce du bois qui contribue à protéger les forêts. Il prépare une session de dialogue impliquant les pays producteurs et consommateurs et sont également prêts à coopérer avec l'Indonésie et d'autres pays à cet égard. Ce dialogue est un élan pour mieux reconstruire après la crise sanitaire, pour protéger les forêts de la déforestation, pour éviter l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, de sorte que l'objectif de l'accord de Paris de réduire l'augmentation de la température de la Terre en dessous de 1,5 degrés Celsius en 2030 sera atteint. Plutôt, O'Flaherty a déclaré que l'objectif est un défi commun pour les pays du monde qui ont signé et ratifié l'accord de Paris, car si sans faire quelque chose, ce sera catastrophique. La déforestation est l'un des principaux contributeurs aux émissions de gaz à effet de serre qui atteint 80%. Ils font donc campagne pour la protection des forêts pour la COP26. À l'occasion, Nur Mas Pripatin, conseiller principal auprès du ministère de l'Environnement et des Forêts, chargé du contrôle du changement climatique et des conventions internationales, a déclaré que pour mener à bien l'action climatique, la technologie doit être explorée afin d'atteindre les objectifs de réduction des émissions ou d'éviter de dépasser le budget d'émissions calculé. En ce qui concerne la manière dont l'Indonésie peut accroître son ambition de réduire les émissions de gaz à effet de serre, Mas Pripatin a déclaré « La solution réside également dans l'utilisation de la technologie et l'innovation. » De plus, en tant que pays possédant de vastes mangroves et tourbières, les étapes de restauration peuvent être poursuivies compte tenu des mangroves et des tourbières absorbent des très grandes quantités de carbone. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Cinta kepadamu. hadapi kenyataan dirimu. Mungkinkah cintamu hanya untukku? Namun ku cemburu.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter un magazine culturel intitulé Gula Puan ou Sucre Puan. Le buffle des marais est une espèce indigène du sud de Sumatra. Il existe seulement dans le district de Pampangan, la région de Banyuasin. Pampangan est une zone qui est le centre de buffle des marais dans le sud de Sumatra, et ces buffles sont connus sous le nom de buffle de Pampangan. La plupart de ces buffles sont pris pour leur viande, et seule une petite partie est utilisée comme bétail de travail. Outre la viande, ce buffle produit également du lait. Les habitants de Pampangan, la région de Ogan Komering Ilir, transforme le lait de buffle en divers types de préparations tels que le sucre point, le sagon point et l'huile de buffle. Parmi ces aliments, le sucre point est l'aliment le plus préféré des habitants du sud de Sumatra. Point signifie le lait dans la langue locale. Le goulot point peut être défini comme sucre du lait, selon les ingrédients de base, à savoir le sucre et le lait. Texture douce légèrement granuleuse, de couleur brune. Et pour le préparer, le lait est mélangé avec du sucre, avec un ratio de 5 litres de lait et 1 kg de sucre. Le mélange est cuit à feu douce, en remuant fréquemment, et après environ 5 heures, le lait épaisse jusqu'à ce qu'il sèche et forme une boule brunâtre. Le goulot point peut être mangé directement et parfait pour boire du café ou tartiner du pain et de bananes frites. Autrefois, goulot point ou sucre de point n'était consommé que les sultans du sultanat malais, parce que ce culinaire est une collation spéciale. Il n'est donc pas surprenant que le prix soit très cher. Aujourd'hui, goulot point est devenu une collation typique pour les habitants de Palembang. Malheureusement, le sucre point est très rare. Le prix est assez cher, environ 100 000 rupiah par kilogramme. Il est vendu à la cour de grande mosquée de Palembang et vendu uniquement le vendredi avant la prière du vendredi jusqu'à la fin de la prière. Chers amis, c'est un magazine culturel intitulé Goulot point ou sucre point de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci à tous et à bientôt.
Saja bila benar-benar sayang, jangan-jangan. katakanlah saja bila benar-benar sayang. Jangan-jangan buat aku terlalu lama menunggu. Oh yeah, yeah, oh. Oh 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 yeah, oh 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 yeah, yeah, oh. Oh 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 yeah. Lalu harus bagaimana lagi cara cara saja bila benar-benar cinta. Jangan kau ragu-ragu karena ku sungguh-sungguh. Kata-katakanlah saja bila benar-benar sayang. Jangan-jangan buat aku terlalu lama menunggu. Saja bila benar-benar sayang. Jangan-jangan buat aku terlalu lama menunggu. Kata-katakanlah saja bila benar-benar sayang. Jangan-jangan buat aku terlalu lama.
Serge Ritard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Chers amis, voici l'Indonésie en couleur, un format sur les chaussures locales indonésiennes qui sont revenues pour apparaître dans l'exposition internationale. Une autre fière nouvelle vient des créations créatives des enfants de la nation indonésienne. Soutenue par l'ambassade d'Indonésie à Rome, en Italie, et le Centre de promotion du commerce indonésien de Milan, la marque de chaussures locales Pijak Bumi participe à nouveau au Salon international de la chaussure MICAM Milano 2020. L'événement, qui pour la deuxième fois a été suivi par Pijak Bumi, a eu lieu du 20 au 23 septembre 2020, à Ro Fiera, Milan, Italie. Pijak Bumi présenté au MICAM en tant que designer émergent pour la conception éco-esthétique innovante de chaussures et de produits en cuir. Cette marque a été choisie par MICAM pour présenter son travail en raison de sa conception originale de chaussures tout en maintenant la durabilité. Dans l'exposition MICAM 2020, Pijak Bumi présente un design de chaussures appelé Basket Atlas où 95% du matériau provient de plantes. Ces chaussures sont faites de fibres naturelles avec un accent fait de jacinthe d'eau tissée et sont basées sur une base en caoutchouc naturel. Le fondateur de Pijak Bumi, Roland Asfales, explique « Pijak Bumi sélectionne les ingrédients avec soin avec trois critères de base. Faible consommation d'eau, pas de danger pour l'environnement et gestion des déchets respectueuse de l'environnement. » Lors de cette exposition internationale, Le stand Pijakumi est situé dans un espace dédié exclusivement aux designers émergents au MICAM. Cependant, en raison de la politique de restriction de voyages liée à la pandémie de COVID-19, la délégation Pijakumi a été contrainte de participer à distance en Indonésie. Ensuite, pour discuter davantage des produits de chaussures Pijakumi, les acheteurs potentiels ont eux la possibilité de se rencontrer via des appels vidéo en ligne disponibles sur le stand. En tant que créateur émergent, Pijakumi a participé à cet événement avec 9 autres créateurs internationaux. Pijakumi sont des chaussures écologiques à la mode. Ces chaussures utilisent du cuir naturel et sont tannées avec des extraits de plantes kenaf. Cette plante émet 8 fois plus d'oxygène que les autres arbres. Ces chaussures n'utilisent pas de produits chimiques. Pijakumi est né en tant qu'initiateur de l'industrie de la chaussure qui combine 3 piliers, l'originalité du design, des matériaux respectueux de l'environnement et la promotion de la sagesse artisanale locale. Cependant, MICAM Milano est un salon majeur de l'industrie de la chaussure avec plus de 1700 collections présentées dans chaque édition, ce qui en fait un mélange entre les affaires et la mode. À chaque événement, plus de 1200 entreprises présentent leur dernière création à environ 45 000 visiteurs venus de 130 pays. Cette étape a confirmé MICAM Milano comme une exposition majeure pour les militants de l'industrie de la chaussure du monde entier. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur.
Chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Sans retard, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Bonsoir à tous. Vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie. Vous êtes avec moi, Audrey. Et maintenant, je vais vous présenter le magazine musical. Cette fois, vous allez écouter une chanson intitulée Catatan Kecil, ou La Petite Note, chantée par Adhira Prabulantip Trengginas ou bien Adhira. Chers amis, cette chanson Catatan Kecil ou Petite Note est sortie en 2016. Les paroles de cette chanson nous invitent à être heureux avec ce que nous avons, car cela rendra la vie plus heureuse. En plus de cela, partager le bonheur que nous avons peut en fait nous rendre heureux. Même si cela semble simple, cette chanson a en fait une signification profonde. Adhira a emballé cette chanson avec un arrangement musical amusant. Bon, chers auditeurs, voici la chanson Catatan Kecil, La Petite Note, chantée par Adhira. Bonne écoute.
Bahagialah dengan apa yang kau punya, walau hatimu merasa semua belum sempurna. Sebenarnya kita
Sudah cukup semuanya bila dunia membuatmu kecewa. Karena semua cita-citamu tertunda. Percayalah segalanya telah diatur semesta agar kita mendapatkan yang terindah. Bangkanlah tinggi, tapi selalu pijakkan kaki di bumi. Senyumlah kembali, bahagiakan hari ini. Buatlah hatimu bersinar lagi. Bila ingin lebih damai di dunia, berbagilah bahagia kau punya. Kini hatimu terasa semua lebih sempurna karena kau hidup dengan seutuhnya.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @voiceindonesia, d'Instagram, @voice.of.indonesia, joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia, et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt!